Mémoire d'un continent.
Elikiem Bokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Entre passé et futur, vivre en ville aujourd'hui en Afrique. Comment appréhender le temps qui passe et qui passe si vite ? Comment faire pour en sorte que les instantanés soient donnés à voir, mais en même temps que les mutations structurelles qu'on sent venir soient aussi illustrées de manière aussi visible? Faut-il attendre que ça se passe ou faut-il essayer de saisir le mouvement pendant qu'il est en train de se produire? Les villes africaines aujourd'hui sont un spectacle, mais aussi un objet d'étude important. Les chiffres sont connus, on parle de vertige urbain, les chiffres étonnent. Beaucoup de villes africaines ont dépassé les 10 millions d'habitants, on ne sait pas dans 10 ans ce que ça donnera. C'est vrai du Caire, c'est vrai de Lagos, c'est vrai des villes sud-africaines et c'est vrai aussi des villes congolaises. Le Congo démocratique, on le sait, l'ancien Congo belge, avait déjà au moment de l'indépendance une population urbaine relativement importante et depuis on ne sait plus où donner de la tête. C'est un véritable vertige que deux chercheurs ont essayé et je pense réussi à saisir. L'un d'entre eux est un artiste qui fait dans les genres les plus divers. Il est très connu, il expose beaucoup. C'est Sami Balogi et son compère est un sociologue, non, un anthropologue bien connu qui travaille beaucoup sur la vie aujourd'hui en milieu urbain mais aussi dans des communautés marginales. C'est Félix de Bouc qui est notre invité aujourd'hui. Nous sommes ensemble à Bruxelles au musée Wills, un musée qui est très connu et qui fait beaucoup d'expositions où est donné à voir l'exposition que tous les deux ils ont fait, Sami Balogi et Félix de Bouc, sous le titre Urban Now, City Life in Congo. Citadin aujourd'hui, la vie urbaine au Congo. Alors, Félix de Bouc, cette exposition est quelque chose de très original parce que il y a des photos, bien sûr, des photos très étranges d'ailleurs, de la ville et de tout ce qu'il y a à côté de la ville. Il y a beaucoup de personnages qui jouent un rôle actif, on les voit dans leur rôle de citadin, et en fait, il faut dire rôle de citadin au pluriel, parce que ça va d'un bout à l'autre. Et il y a votre discours. Je voudrais qu'on commence par une de vos réflexions, c'est que les villes africaines, et en particulier Kinshasa et les villes minières du Katanga, sont investies aujourd'hui par les urbanistes, les architectes. Il y a énormément de projets. C'est quand même assez curieux. À qui s'adressent ces projets? Parce qu'à l'époque coloniale, il y avait aussi des projets, mais là, on voit des projets qu'on sent un peu déconnectés de la société réelle.
Effectivement, en fait, le projet, la collaboration avec Sami Balogi a commencé autour d'un projet très spécifique. On a commencé à suivre une entreprise de construction d'origine russe qui a un modèle générique d'une nouvelle ville qu'elle essaie d'implanter à côté des villes existantes, à Nairobi, à Accra, à Lubumbashi, etc. Et donc on a commencé à suivre tous ces endroits, tous ces lieux où cette ville à venir est implantée, sans aucun lien avec la ville qui existe, qui est là. Et à chaque fois, il y a des tensions, des conflits autour de ça. La ville qui n'est pas encore construite met déjà en marche des expectations des gens qui créent leur bidonville autour d'un espace vide en se disant, bon, il y aura du boulot, il y aura la ville qui va venir, il y aura des opportunités, et puis cette ville ne se crée pas, ne se fait pas, ou continue à exister seulement comme image, comme rêve, comme imaginaire. Et donc, ce qu'on a voulu faire et montrer, c'est cet hiatus, entre ces rêves déconnectés de la réalité en quelque sorte, et la vie comme elle se vit tous les jours dans ces grands centres urbains, que ce soit Nairobi ou Lubumbashi ou Kinshasa, en occurrence dans notre cas. Donc finalement c'est devenu un projet congolais. Le volet congolais a commencé à mener sa propre vie, et on a commencé à faire une recherche, j'appelle ça une acupuncture urbaine, à mettre notre aiguille analytique, disons, photographique ou textuelle, choisir certains endroits dans la ville que je crois des endroits importants. Ça peut être un champ, un bâtiment spécifique, un bâtiment colonial qui a été redéfini et réemployé d'une autre manière. Ça peut être un cimetière, ça peut être une nouvelle ville ou pour la classe moyenne qui, elle aussi, n'existe pas encore tellement ou reste très hypothétique. Donc finalement, on peut se poser la question, oui, effectivement, pour qui ces nouvelles villes, à qui s'adressent-elles, pour qui ils sont construits. Et on a commencé à investiguer tous ces endroits. Et à chaque fois, il y a d'autres dynamiques qui ressortent, d'autres des processus de territorialisation, de colonisation, de prendre possession, de se créer une place dans une ville où on n'a pas nécessairement une place officielle, où on a beaucoup de ces gens qui habitent la ville, n'ont pas le droit à la ville proprement dit. Ils n'ont pas vraiment un espace, ils doivent se battre pour avoir une place dans la ville. Et comment ça se fait, comment ces colonisations se font, c'est prendre possession du sol, d'un endroit, d'un espace, et comment la sphère publique de cette manière se crée, et qu'est-ce qui constitue un public déjà dans la ville, comment on peut vivre ensemble, comment on peut être ensemble. Et c'est ça qu'on a voulu investiguer finalement.
Dans les projets des architectes, on fait souvent référence, d'ailleurs quand on voit les prix des appartements ou des maisons construites, on fait référence à une classe moyenne tout à fait hypothétique, parce que les acteurs que vous rencontrez sur le terrain, justement, ce ne sont pas ces classes moyennes, c'est d'autres acteurs qui apparemment prennent possession des lieux, y compris des lieux où ils sont interdits de se trouver. C'est ça qui nous a beaucoup frappé. Par exemple, il y a la question des cimetières.
Oui, bon, là, on montre, et c'est un projet que j'avais déjà commencé bien avant. J'ai fait un documentaire en 2010 sur un cimetière particulier à Kinshasa, le cimetière de Kintambo, qui date de l'époque coloniale, début des années 50, qui officiellement a été fermé fin des années 80, si je ne me trompe pas, mais qu'on continue à utiliser. Il y a encore 4000 enterrements qui ont lieu dans ce cimetière qui n'existe pas finalement. Et tout ça, c'est géré par des associations de fossoyeurs qui, eux non plus, n'ont pas une fonction officielle dans la ville. Ils ne travaillent pas pour l'hôtel de ville, mais c'est dans une économie parallèle, informelle, que cette gestion de la mort se fait. Voilà, donc ce sont des gens qui se sont dit, ici on connaît un mouvement comme Occupy, hein, dans les villes en Occident, mais l'occupation de sol, on occupe un espace, on crée quelque chose. Ce cimetière en l'occurrence, on l'appelle l'État, donc c'est un État des ténèbres en quelque sorte, un État informel, mais avec ses propres règles, avec ses propres dynamiques, avec ses propres lois. Et il y a beaucoup d'endroits comme ça dans la ville, des anciens bâtiments de l'époque coloniale, des bâtiments officiels qui ont été squattés, réhabités, réemployés pour d'autres fins. Il y a des champs qui officiellement n'existent pas dans le pool Malebo, où les gens ont créé avec leurs propres mains très souvent des jardins et des champs, repoussé l'eau et donc créé tout un espace vert qui alimente aussi la ville, mais qui n'apparaît pas sur aucune carte officielle de l'espace urbain de Kinshasa. Et donc c'est des endroits où on voit comment finalement l'espace urbain se fait, se crée en occupant, en prenant possession de quelque chose qui, on n'a pas, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de papier, il n'y a pas un titre légal qui dit que vous êtes c'est vous le propriétaire. Donc cette relation avec la propriété est très difficile aussi. Donc on peut facilement être chassé, et dès qu'on est chassé par la police, par les militaires, bon, on s'en va pour revenir après ou pour aller ailleurs. Et donc ça fait aussi qu'il y a une mobilité dans la ville presque semi-nomadique. on n'est jamais sûr d'avoir ce qu'on a, et on peut être chassé facilement pour revenir après. Et c'est comme ça que la ville, finalement, de manière très dynamique et avec beaucoup de problèmes et beaucoup de tensions et de conflits, se crée. Mais c'est pas, enfin, c'est pas pour romantiser ce dynamisme ou cette vitalité, c'est aussi par manque d'autres choses. Ça crée beaucoup, beaucoup de conflits, de tensions entre beaucoup de gens qui, parfois, on achète une parcelle de terre, bon, mais elle a déjà été vendue par un chef de terre qui, lui-même, n'a aucune fonction officielle dans l'administration de l'État non plus, mais par qui on doit passer pour obtenir un lopin de terre que lui-même a déjà vendu à 10 autres personnes. Donc là aussi, ça crée énormément de tensions.
Philippe Debouc, parmi les acteurs que on rencontre dans votre exposition, aussi bien à Kinshasa que dans la région minière du Katanga, il y a ceux qu'on continue d'appeler les chefs coutumiers. Mm-hmm. On les voit nombreux, souvent ils se mettent en scène devant vous, ils ont des à la fois des parures dites traditionnelles, ils ont aussi des documents écrits qui semblent attester de droit. Quel rôle jouent-ils, disons, dans une ville comme Kinshasa et dans les villes minières du Katanga, où en principe il y a soit l'autorité de l'État, soit les entreprises privées qui possèdent d'une manière ou d'une autre ou qui gèrent le sol?
Il faut dire, d'abord on avait commencé moi je voyais ce projet ou cette recherche anthropologique, ethnographique, photographique de la ville comme un exercice horizontal, disons, en s'inscrivant dans le paysage et en bougeant d'un endroit à l'autre horizontalement et en reliant tous ces endroits, essayer de raconter, de narrer, de créer une narration autour de la ville. Maintenant, horizontalement, mais à chaque fois, chaque endroit à Kinshasa ou au Congo est constitué d'un palimpseste de temps, de temporalité, d'historicité, d'histoire. Et à chaque fois qu'on met notre aiguille, notre acupuncture urbaine dans un endroit, c'est aussi en même temps des sondages, en quelque sorte, qui percent tous ces palimpsestes, ces histoires différentes qui constituent actuellement un lieu, un endroit dans la ville. Et là aussi, j'ai voulu rester très proche du paysage en prenant deux points topographiques, disons, comme point de départ, la montagne, la colline d'un côté et le trou de l'autre côté. Je considère que les montagnes, les collines permettent de raconter l'histoire peut-être de la ville en commençant avec l'époque précoloniale et coloniale. C'est les collines, les montagnes, c'était les endroits importants des chefs où ils installaient leur village, où on vénérait les ancêtres, où on enterrait les morts. Ce sont des endroits qui, par après, ont été colonisés par Stanley et les siens. La montagne, la colline Konzo-Ikulu est devenue le Leopold Hill, qui a été rebaptisé à l'époque postcoloniale par Mobutu en tant que Mongaliema. Et donc, tous ces montagnes, que ce soit c'est là où le mont Mangengenge, l'autre bout de la ville de Kinshasa, un lieu important de prière, mais aussi un lieu important dans cette réalité précoloniale, comme elle existait avant l'arrivée de Stanley et les siens. Donc ça permet de raconter ça. Et par contre, je crois que la topographie générique, disons, de la ville ou de la vie urbaine postcoloniale, c'est pas la montagne, c'est pas une proposition verticale, où c'est pas le gratte-ciel, puisque la montagne dans l'urbanisation de Kinshasa a été traduite en termes de gratte-ciel. Le premier gratte-ciel de l'Afrique centrale, c'était la tour Forescom, 10 étages, elle s'y trouve encore, et donc voilà, c'était le vertical. La proposition postcoloniale, par contre, c'est le trou. Et il y a des trous partout au Congo, il y a des trous dans la rue, il y a des trous, des tombes non marquées, éparpillées dans la ville. On trouve des cimetières partout. Il y a des trous des mines industrielles ou artisanales. Et le trou, c'est vraiment l'infrastructure de base de la postcolonie, on peut dire. D'ailleurs, Sonny Laboutan, si je ne me trompe pas, à un moment, a écrit une pièce de théâtre qui s'intitule « Le trou ». Et il le faisait pour une raison. Et donc, on a commencé à investiguer ces trous et à se poser la question entre montagne et trou, entre colline et trou. Bon, cet hiatus-là, hein, qu'est-ce qu'on fait avec? Comment combler le trou? Comment créer de l'impossibilité que représente le trou? Comment en faire une possibilité? Ces chefs de terre, pour revenir à la question, le font de leur manière. Bon, ils rejouent une histoire précoloniale. Bien sûr, la notion tradition elle-même est quelque chose de très problématique, puisque c'est une tradition qui a été créée, qui est très moderne et qui sort d'une histoire coloniale et postcoloniale. Donc, rejouer cette tradition, c'est une invention postcoloniale, bien sûr. Mais leur point de repère, soi-disant, c'est l'histoire, qu'ils connaissent plus ou qu'ils connaissent très mal. Auquel vient s'ajouter d'autres dynamiques, d'autres forces, d'autres histoires. Et on voit comment finalement tout ça ensemble crée la ville aujourd'hui. Et une fois de plus, avec toute la vitalité qui va avec tout le côté problématique et chaotique qui est désordonné, qui l'accompagne aussi.
Philippe Debouc, on est étonné à voir votre exposition et le livre que vous en avez tiré en anglais, Surturing the City, Living Together in Congo's Urban World, vivre ensemble dans les mondes urbains au Congo. C'est quand même, comment dire, cette situation à beaucoup d'endroits explosive, parce qu'il y a des tensions juridiques, financières, etc., économique, très importantes, économiques. Oui, et en même temps, quand même, on vit ensemble. Ouais. C'est ça qui paraît paradoxal. Est-ce que c'est porteur d'un futur, d'une temporalité relativement longue vers l'avant?
Sans doute, mais je ne sais pas ce que cet avenir sera, sinon sans doute je ne serais pas ici si je le savais. Mais qu'est-ce que ça veut dire que vivre ensemble, ou comment on crée une collectivité, comment on peut faire des choses ensemble et être ensemble d'une bonne manière? Ben, je crois que c'est jamais fini, c'est jamais terminé, c'est jamais un projet qui est terminé. Ça reste ouvert, ça reste en mouvement, sinon c'est impossible. Et donc la ville idéale restera toujours une utopie aussi. C'est quelque chose qu'on fait ensemble, nous, les hommes qui vivons ensemble, cette ville qui la construisent, qui la... Et donc, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir où se trouvent ces ouvertures et où et comment, parfois de manière très, très étonnante, les gens continuent à redéfinir des commencements temporel, spatial, d'autres manières de d'interactivité, de faire les choses ensemble, parfois avec beaucoup de conflits. Ça veut dire que la ville, c'est toujours, oui, c'est une ville en termes de diversité, il y a beaucoup d'hétérogénéité. En même temps, je trouve, dans beaucoup de villes au Congo, il y a hétérogénéité, il y a aussi un caractère très monolithique. C'est difficile d'être dissident. Il faut être comme les autres. Il y a toujours quelque chose qui force à l'uniformité, en quelque sorte. Et donc, cette tension entre diversité et uniformité, entre ouverture et fermeture, entre, un côté très, très spontané, créatif, et un côté très autoritaire, cette tension-là crée aussi des possibilités, dans l'impossibilité même. C'est pour ça que j'emploie aussi la notion de suture. Hein, le suture, c'est une plaie, et comment fermer ces plaies et comment faire de la plaie la suture qui présente un manque, comment faire de ce manque une possibilité, comment faire de ce monde zéro un monde un. Comment on peut redéfinir le zéro en termes de possibilités. Il y a une photo dans le livre qui, un slogan qu'on a peint sur un mur, une façade d'une maison qui dit l'impossible n'est pas congolais. Eh ben, c'est impossible qui n'est pas congolais. Qu'est-ce qu'elle est alors? Et comment on peut faire une possibilité d'une impossibilité? Et c'est ça qui reste étonnant et fascinant aussi à voir.
Merci beaucoup Philippe Debouc pour cette analyse en temps présent de situation urbaine en Afrique centrale qui nous relie entre un passé qui n'est pas si lointain, parfois qui est très lointain à travers les chefs coutumiers, et un futur qui est déjà dans le présent. Exposition qui se fait à Bruxelles au musée Wiltz. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoul.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.